d'être présent ce soir pour la première conférence du cycle Jalon pour une histoire des sciences de l'homme, pouvoir se poser la question de savoir si le titre « Une brève histoire du continu, du discret et de l'infini » entre dans la catégorie des sciences de l'homme, Monsieur Longo. Donc je voulais remercier d'abord les écoles doctorales toujours présentes et aussi partenaires de nos conférences Jalon pour une histoire des sciences de l'homme. Cécile Tréfort est présente ce soir et Yannick Blandin va arriver tout à l'heure. C'est un cycle de conférences interdisciplinaires et donc vous avez vu que les thèmes étaient très, très différents. Et j'écoute de temps en temps France Culture, j'espère vous aussi, parce qu'on apprend pas mal de choses. Et une émission qui s'appelle La Place de la Toile, je ne sais pas si vous la connaissez, une émission très très bien sur Internet. Et c'est ce jour-là, mais j'avais déjà entendu parler de Monsieur Longo, que j'ai entendu Monsieur Longo intervenir et je me suis dit, il faut que je l'invite à Poitiers. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et Giuseppe Longo a accepté tout de suite et nous en sommes vraiment reconnaissants et fiers de vous inviter aujourd'hui pour cette première conférence de l'année. Je vais dire à nos amis qui vous êtes. Vous m'avez envoyé un CV. Bon, vous êtes anciennement professeur de logique mathématique puis de sciences informatiques à l'université de Pise. Vous êtes actuellement directeur de recherche au CNRS à l'École normale supérieure de Paris et vos recherches concernent la logique mathématique et les diverses applications en informatique. Vous avez passé 3 ans comme chercheur et professeur invité aux USA, successivement à Berkeley, au MIT et au Carnegie Mellon, et aussi plusieurs mois à Oxford et Utrecht. Et vous êtes rédacteur en chef du Mathematical Structures in Computer Science, une revue scientifique majeure de l'Université de Cambridge et co-auteur d'une centaine d'articles et de 2 livres. Et vous avez récemment étendu vos champs de recherche à l'épistémologie des mathématiques et à la biologie théorique. Voilà, donc vous trouvez toutes les informations aussi sur Monsieur Longo, aussi sur le site Internet, si vous faites Google, bien entendu. Donc vraiment, quand j'ai vu votre titre, je me suis dit, voilà, c'est une brève histoire, mais longue, du continu, du discret à l'infini, un titre un peu provocateur, la conceptualisation mathématique d'Euclide à la machine à état discret, l'ordinateur en 60 minutes. Cette conférence est bien entendu aussi pour tous les étudiants, comme je vous l'ai dit, Monsieur Longo, des écoles doctorales. Donc il y a des matheux dans la salle, mais il n'y a pas que des matheux. En tout cas, nous sommes très honorés de vous écouter ce soir et je vous laisse la parole.
Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici, la première fois. Je ne connais pas Poitiers non plus, donc peut-être une petite promenade demain matin. Effectivement, et puisque maintenant j'ai 3 minutes en moins, je dois enlever au moins 300 ans sur ces 5 000 que je prétends vous présenter. Et ce n'est pas une histoire, hein. Il s'agit de faire un passage par quelques phases très importantes, surtout certaines fractures épistémologiques qui se sont faites au cours de l'histoire, qui ont constitué des aspects très importants dès la vision de la nature qui passe à travers les mathématiques, en particulier les rôles de l'infini, du fini, du continu et du discret, et qui se mêlent à des histoires humaines très importantes. C'est pour ça que je suis très content que ça soit fait dans un cadre où dominent, si je comprends bien, les humanistes. Je voudrais démarrer par ces moments plutôt extraordinaires de l'humanité qu'en Mésopotamie invente environ 3300 ans avant Jésus-Christ l'écriture dans ses différentes formes. À peu près à la même époque, en Mésopotamie, on commence on invente la notation hiéroglyphique, logogrammatique et alphabétique. Je vais me concentrer surtout sur l'invention de l'alphabet, car, disons, on comprend mieux un parcours possible des dessins de Caff de Lescot à l'écriture idéogrammatique ou hiéroglyphique. Enfin, c'est cette image qui évoque un concept, une idée, une situation, un personnage. Mais l'idée extraordinaire de ces tribus d'Altam, qui est en 3300 environ, invente une notation musicale, puisque c'est ça. Il y a un continu du langage. Vous savez peut-être qu'il n'y a pas plus de distance entre les mots qu'entre les syllabes. Notre langage est en général une forme de continu. Et c'est ces gens-là qui inventent une notation discrète, une notation musicale, et d'abord basée seulement sur les consonnes, pour dénoter des pitchs, hein, des pitchs du son du langage. Et le phonème, c'est la façon de reconstruire la signification. Il y en a à voir avec l'idéogramme où la signification est donnée par l'évocation imaginée, donc par l'image. Si vous voyez, les environ 500, apparaît qu'on a aujourd'hui environ 500 idéogrammes dans les gares, les aéroports, etc. Vous voyez les signes toilettes, vous avez besoin de toilettes, vous allez aux toilettes sans aucun son dans votre tête. Si par contre il y a marqué toilette, le son doit être engendré dans la tête. Et ce n'était pas évident. C'est-à-dire, ces chants produits par la lecture étaient toujours explicites. Il paraît que les premières tentatives de parler seulement dans la tête datent très tard. C'est le 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, Saint Ambrose à Milan, qui lisait la Bible en silence. Évidemment, le pape n'a pas été content. C'est quoi cette histoire intimiste, hein? Donc, il a risqué les bûchers. Bon, il a été fait saint. Parfois, dans l'Église, il y a des bifurcations possibles de ce genre. Et donc, on fait toujours ce qui fait les musiciens expérimentés, que quand il lit la partition, il entend la musique. Ça, est-ce qu'on fait, nous, avec le langage? Mais donc, rendez-vous compte, l'originalité de cette démarche. Évidemment, les idéogrammes ont une autre forme de richesse, ont d'autres aspects d'expressivité toute particulière. Mais disons, c'est l'alphabet qui m'intéresse, puisque c'est la première discrétisation du monde, en passant par la discrétisation du son. Et c'est très abstrait. Il faut qu'il n'y ait pas de signification. Donc il y a un départage très net entre une notation pour évoquer la signification en passant par les phonèmes, donc en passant par le chant, hein, un chant implicite, chanté dans la tête. Et là, il y a donc un départage très net entre des espaces de signification, de l'action, des choses qui signifient, et une notation qui ne doit pas avoir de signification. Si vous rappelez que A vient d'alpha, qui est une tête de taureau tournée de 90 degrés, vous ne pouvez plus lire. Il faut absolument ne pas donner de signification au signe alphabétique pour reconstruire à travers le son la signification. Donc c'est quelque chose qui est vraiment une première expérience d'un dualisme très fort. C'est une discrétisation du monde et qui sera à l'intérieur de cette culture qui, passant par la Grèce, va inventer par exemple l'atomisme. Démocrite va écrire des lettres alphabétiques sur ses atomes. Et l'objet se forme en mettant ensemble les atomes de la même façon dans laquelle il y a le pop-out de la signification en mettant ensemble les lettres d'un mot. Donc ce parcours a un autre moment très important, et c'est ça sera en Grèce comme Démocrite, un siècle et demi avant, c'est-à-dire au VIe siècle, Crésus, l'invention de la monnaie frappée. Évidemment, il y a tout en phase de passage pour arriver du troc à l'organisation explicite de la part de l'État de la monnaie frappée, il y a des phases intermédiaires. Mais c'est à ce moment-là où on peut tourner n'importe quoi en or, c'est-à-dire avec la monnaie de Crésus tout à fait généralisée, on donne une valeur à n'importe quoi. C'est un autre passage très abstrait. Rendez-vous compte, qu'est-ce que c'est l'idée pour un paysan du VIe siècle de dire « ma vache, la maison, n'importe quoi, a une valeur ». Et en fait, elles peuvent être même équivalentes, ou s'il y a un multiplicateur, ça soit dans la structure de la monnaie d'une façon parfaitement abstraite. C'est au même moment qu'ils naissent la philosophie et les mathématiques grecques. Ce n'est pas un hasard, hein, puisque là, il y a une abstraction. On peut détacher du monde une construction conceptuelle, dans ce cas la monnaie, comme on détache du monde la construction mathématique et la construction philosophique. Pythagore, c'est exactement les mêmes années des Crésus, donc le nombre comme au cœur du monde, le nombre comme une option abstraite. Et vous savez bien qu'il y a un moment d'immense crise et difficulté, c'est à l'intérieur de l'école pythagoricienne, le théorème de Pythagore donne quelque chose qui n'est pas mesurable, n'est mesurable avec des nombres ni avec des rapports de nombres. N'est pas rationnel, la diagonale d'un carré n'est pas un rapport rationnel par rapport aux côtés. Si vous avez un carré des côtés 1, et la racine de 2 est quelque chose qui ne peut pas être exprimé par un rapport entre nombres. Une crise grave, puisqu'encore une fois, le nombre, comme la monnaie, est mesure de toute chose, et un rapport entre nombres qui apparemment permet de tout mesurer, en fait, avec une approximation, vous pouvez tout mesurer avec des rationnels. Mais là, il y a un théorème qui dit non, il y a une longueur qu'on peut construire par voie géométrique que et on ne peut pas mesurer par cette notion abstraite, celle du nombre et de ses fractions. Donc il y a le tournant géométrique. Hein. Il y a la géométrie d'Euclide qui développe un cadre conceptuel et indépendant de cette discrétisation implicite chez le nombre qui est héritée dans ce cadre de travail très particulier qui sera Démocrite et l'école pythagoricienne qui le précède. Et qu'est-ce qu'il y a là qui commence? C'est un traitement explicite mathématique du continu. Mais quel continu? Ben, pour Euclide, il s'agit d'un continu cohèse et compact. Un segment pour Euclide n'est pas infini, en aucun sens. Il n'est pas fait de points. Et c'est un bloc tout entier. Les points, dit la définition alpha, bêta, les points sont aux extrêmes d'un segment. Et là, l'audace très différente, l'audace conceptuelle des Grecs, qui invente la notion de points sans dimension et de lignes sans épaisseur. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est? Nous, on voit des lignes, on sait faire des lignes, mais dire la ligne est sans épaisseur, c'est la définition gamma, est une longueur sans largeur, hein, comme le point et ce dont la partie est nulle et sans dimension, est un signe. C'est un autre passage d'abstraction, mais d'une autre nature. Il y a ce continuum qui est celui de la ligne, qui est primitif, dans le sens que, et ça c'est une très belle remarque de Wittgenstein, on obtient les points comme extrêmes d'un segment, ça c'est la définition bêta que je vous disais tout à l'heure, et on obtient un point comme intersection de lignes. Si vous faites une intersection de deux lignes, qui n'est conçue que pas sur un segment, d'intersection de deux lignes et sans épaisseur, vous avez un point sans dimension. Et en fait, Euclide construit les points de cette façon-là, en faisant des intersections de lignes. Donc, vous voyez, il y a cette autre forme très originale d'abstraction, qui est l'invention de la ligne sans épaisseur, par conséquent, les points sans dimension, qui est vraiment au cœur de ce passage où le continu est le concept qui règle, qui est derrière toute la géométrie euclidienne. Et Saint Augustin dit cela très bien. C'est beaucoup plus tard, c'est au IVe siècle après Jésus. Dans les Confessions, il y a un traité formidable sur la mémoire, ce qui m'intéresse, ce qu'il dit sur les fondements des mathématiques. Et là, il observe, nous avons l'expérience, nous connaissons la ligne la plus mince qui peut dessiner le meilleur des architectes. Nous connaissons le plus mince des fils qui peut être tissu par le plus petit des araignées. Mais ils ne sont pas sans épaisseur. Comment ça se fait que nous connaissons la ligne sans épaisseur? Et Saint Augustin dit, c'est Dieu qui nous met en mémoire la connaissance de Dieu et la ligne sans épaisseur. Il centre parfaitement le rôle de la ligne sans épaisseur comme fondateur de la géométrie euclidienne et il le met au même niveau que la connaissance de Dieu. Évidemment, pour moi, qui suis tout à fait athée, je renverse les choses. C'est nous qui, en construisant une culture symbolique où les niveaux d'abstraction nous permettent de concevoir Dieu et la ligne, au même temps, hein, on a le miracle de la géométrie euclidienne comme production abstraite et par les Grecs, puisque la géométrie d'Euclide, et qui est faite avec règle et compas, n'est pas faite avec la règle et le compas de l'homme, c'est un dialogue avec les dieux. Non, il y a ces idées qui sont derrière. Donc, encore une fois, il faut se focaliser sur le concept de continu et des lignes sans épaisseur pour en comprendre le fondement. Puis évidemment, qu'est-ce qu'il fait Euclide? Il fait, avec les lignes sans épaisseur, les points, il fait la construction de figures. Ce n'est pas une géométrie de l'espace, c'est une géométrie des figures. Et en fait, on peut dire qu'ils avaient besoin de ces concepts de lignes sans épaisseur, puisque justement, ils voulaient faire une théorie générale des mesures des figures. Alors, si vous voulez faire la théorie générale de la mesure d'un carré, d'un rectangle, il faut qu'il n'y ait pas de bord, quoi. Puisque s'il a un bord comme ça, c'est quoi la mesure? C'est quoi la surface? Alors, l'idée formidable, c'est de dire que le bord n'a pas d'épaisseur, mais il y a un bord. Et puis, d'extrapoler, de sortir ce bord, lui donner l'autonomie de la ligne sans épaisseur. C'est ce passage extraordinaire que les Grecs seulement ont fait. Et avec ça, par rotation-translation, sur le plan, on fait toute la géométrie d'Euclide. Et symétrie. Les rotations et translations, ce sont des symétries. En plus, une autre fermeture par symétrie est très importante, c'est les homothéties, c'est-à-dire le fait qu'on peut faire des élargissements, rétrécissements des figures à volonté en préservant les propriétés des figures. Ça, c'est une propriété cruciale de la géométrie d'Euclide qui l'a rendu le fondement des maths et de leur rapport à la physique jusqu'à la moitié du 19e siècle. Pourquoi? Puisque grâce à la fermeture par homothétie, vous démontrez vos théorèmes ici à dimension humaine. Et le même théorème, par exemple, le fait que la somme des angles internes d'un triangle est 180 degrés, est valable ici, sur les étoiles ou sur les atomes de Démocrite. Et c'est justement ça que la géométrie non euclidienne va casser et se présentera comme le fondement de l'astrophysique moderne, la relativité. Donc. Et ces symétries construites autour de la ligne sans épaisseur et de ses dérivés comme le point, c'est vraiment au cœur de ce continu géré par l'abstraction de la géométrie grecque. Vous voyez donc, et on peut dire qu'à cette époque-là, il y a ces deux aspects de la connaissance mathématique et en fait de l'organisation du monde, les discrets et les continus, qui se chevauchent, se superposent, s'enrichissent. Tout ça au fini, puisque pour Euclide, un segment infini, quand il démontre le théorème sur le nombre premier, et nous disons ils sont une infinité, c'est pas comme ça qu'il dit Euclide, il dit donnez-moi un ensemble, une collection de nombres premiers, une quelconque collection de nombres premiers, pour lui c'est fini, je vous en donne un qui est plus grand. Comment on fait? On fait le produit, on fait plus 1 et on démontre que c'est un autre nombre premier. Donc il démontre que n'importe quelle collection, donc fini, et on peut construire un autre qui est plus grand. C'est un infini potentiel qu'il y a chez les Grecs. Et ça aussi, c'est un aspect central des mathématiques grecques, où toutefois déjà commence le débat. C'est-à-dire, il y a cette notion très claire d'un apeiron, illimité, et donc d'une infinité simplement due au fait qu'on peut ajouter. On peut ajouter un sans limite. Et la discussion qui est très claire chez Aristote entre cet infini potentiel et un infini actuel, c'est-à-dire avoir tous les nombres d'un seul coup comme un ensemble, avoir la limite. Pour Aristote, les bons infinis, c'est qu'on peut gérer du point de vue mathématique, c'est l'infini potentiel. L'autre n'est pas l'objet d'une traitation mathématique ou scientifique ou philosophique. Voilà, alors venons à l'infini. Quand est-ce que le concept d'infini actuel, nettement départagé de l'infini potentiel, devient au cœur du débat? Ben, c'est un débat tout d'abord métaphysique, à l'intérieur de la religion chrétienne. Et c'est à la fin du Moyen-Âge, saint Thomas d'Anscott qui discute si l'infini actuel est un attribut positif de Dieu. Et ils ont le problème en particulier de la grâce pleine de Marie, puisque c'est un attribut infini de Dieu, est-ce qu'une femme finie peut-elle avoir la grâce pleine infinie? Et bien là, le débat sera tranché par l'archevêque templier à Paris en 1295, qui dit « L'infini actuel est un attribut positif de Dieu. Dieu peut attribuer cette qualité à n'importe qui, en particulier à Marie, et ceux qui ne sont pas d'accord seront brûlés sur le bûcher. » Une position axiomatique forte qui a contribué grandement à rendre solide le concept d'infini actuel. Et c'est donc un passage important qui est purement dans un débat métaphysique, il n'y a rien de mathématique, mais qui va s'affiner. Il y a toute une discussion sur comment rendre précis ces concepts. Il y a Nicolas de Cuse, qui est un évêque, on est au 15e siècle, qui insiste sur la positivité de ce concept, puisque ça permet de comprendre comment on ne peut pas atteindre Dieu par degrés. On ne peut pas y arriver par degrés. On l'a par la foi tout en coup, puisque c'est l'infini actuel là qui est là, ou on ne l'a pas. Et que même l'univers est infini, un infini actuel. Et ce sont donc ces passages audacieux. Heureusement, lui, il est avant la contre-réforme, donc il n'a pas de problème, il peut dire cela, qui seront les thèmes réplis plus tard par Giordano Bruno. Mais comment ces concepts, ce débat qui est tout à fait à l'intérieur de la religion, chrétienne, arrive aux mathématiques? Ben, ça, le passage s'est fait par la peinture. Vous voyez, ça c'est Giotto, on est à 1300. Il y a l'espace quand même, il y a un espace, mais c'est un espace non organisé, il n'y a pas un point de vue. Il y a de la profondeur, ce sont des choses très belles, évidemment. Mais voilà comment l'infini de Dieu arrivait dans la peinture. Ça, c'est la première annonciation où il y a un point de fuite à l'infini. J'espère que vous comprenez bien ce que ça veut dire. Ici, sur le plan, si vous prenez les lignes de convergence, les lignes ici, elles convergent en point. Ce point, en plus, est derrière cette colonne. Il y a tout un débat, ça, c'est Christ, la colonne, qui est concrète en bas, au point qu'elle est avant le manteau de la Vierge, et après, petit à petit, elle s'évanouit, où ça, justement, elle couvre l'infini qu'il y a derrière. qu'est-ce qui se passe? Et c'est justement suite à ce débat sur la grâce pleine de Marie, qui est infinie, attribuée par Dieu, que l'on retrouve dans l'Annonciation le moment où l'infini se fait fini. C'est Dieu qui est l'incarnation. C'est Dieu l'incarnation dans une femme finie, de l'Esprit Saint, de lui-même, donc d'une infinité dans le fini. L'Annonciation, ce sera le premier lieu où la perspective va paraître. En tant, non comme organisatrice de l'espace, ça sera une conséquence. Vous voyez ici les deux images, elles ne sont pas vraiment tout à fait dans la profondeur. Vous en verrez d'autres. Il y a déjà de la profondeur qui s'installe. Mais ce qui veut dire le peintre, et ça sera dit de façon tout à fait explicite dans le débat de l'époque, c'est de montrer l'infinité dans le tableau. Hein. San Bernardino da Siena, qui est un prêcheur, fera référence à ce tableau-là, qui est le premier avec cette audace. Lorenzetti était un métaphysicien très cultivé, un théologien, ce n'était pas seulement un artisan, disons. Il dira, il y a l'incommensurable qui va dans les mesurables dans ce tableau. Hein. C'est le miracle de l'Annonciation où l'infini de Dieu se fait chair, fini, dans la Madone. Et ce discours-là va faire de façon que seulement dans les Annonciations, pendant presque 50 ans, il y aura la perspective. Ces mêmes peintres, quand ils passent à peindre d'autres choses, ne font pas de perspective. Ce sera Piero della Francesca qui va affiner au maximum cela. Vous voyez ce tableau, et le point de fuite est donné avec force, hein, et il est caché. Comme auparavant, la colonne cachée, puisqu'il y a Dieu, c'est inaccessible. Donc il y a un mur là au fond. Mais il y a un point de fuite très bien organisé, encore une fois, c'est une annonciation, et la présence de Dieu est donnée par ce miracle de l'infini dans le tableau. Ce qui dit explicitement Léon Baptiste Alberti, qui théorise cet aspect de la construction infinitaire sur le plan, pour présenter Dieu, mais aussi pour organiser l'espace au fini. Ce que je suis en train de vous dire, c'est dans un très beau livre de Histoire des peintures de Daniel Arras, un remarquable historien de l'art, et sera dans la thèse de ma fille, de laquelle j'ai tout appris sur ce sujet, qui est justement en train de faire une thèse sur le Quattrocento italien. Et ça, c'est une annonciation, c'est Piero della Francesca. Piero della Francesca est un théoricien, et il va écrire des pitturas sur cela, donc ça sera très important pour les maths ensuite, comme je vais vous dire bientôt. Et ça, c'est un autre exemple, Beato Angelico, et un prêtre aussi, encore une fois, et dans ces tableaux dans San Marco à Florence, il y a une perspective très raffinée, très étudiée, vous la voyez là. Le point de fuite est très clair. Regardez le banc qui se présente à droite, sa convergence vers le même point à l'infini, bien évidemment. Il fait des peintures dans le même couvent, San Marco à Florence, qui, quand elles ne sont pas des annonciations, il y a un peu de perspective, mais pas si bien étudiée, sans mettre en évidence le point de fuite à l'infini. Et ça, c'est Piero della Francesca. Petit à petit, la perspective émigre sur d'autres travaux, donc encore une fois religieux, mais enfin, ce n'est plus la présence de Dieu, c'est quand même un outil pour faire quoi? Pour organiser l'infini. C'est ça que comprennent les peintres. Que ces résultats d'un débat métaphysique dans lequel ils sont totalement immergés leur donnent un outil formidable pour la représentation du fini. Et c'est ça qui va se passer toujours avec l'infini mathématique. L'infini mathématique est un outil pour mieux comprendre le fini, hein, ce que je vais vous dire avec plus d'insistance bientôt. Et il y a au même temps, un peu avant peut-être Brunelleschi, au début du 15e siècle, qui utilise immédiatement cette technique nouvelle pour faire des maquettes, mais dessinées. Donc il s'aperçoit qu'avec cette technique, il peut faire par le dessin ce qu'il pouvait obtenir dans l'architecture seulement par des maquettes en bois. Voilà, ça c'est des dessins repris du livre « Des perspectives à Pingenti » de Piero della Francesca, où il fait de la géométrie projective empirique, disons. Il comprend très bien que c'est un enjeu géométrique général, il est un excellent géomètre. Par exemple, il comprend cette histoire de la ligne sans épaisseur de points sans dimension d'Euclide, il comprend très bien, il s'est dit « Mais qu'est-ce que peut faire le peintre ?» Ben, pour le peintre, le point et les plus petits signes qu'il peut dessiner, et les plus petits qu'on puisse voir. Et qu'est-ce que c'est la ligne sans épaisseur? C'est la plus mince qu'il peut dessiner et la plus mince qu'on puisse voir. c'est formidable. Il comprend la géométrie, il comprend aussi ce qu'il peut faire avec son art spécifique. Ça, c'est Crivelli, c'est un peu après. Encore une fois, une perspective parfaite. Et qu'est-ce qui lui permet de faire cette construction géométrique extrêmement soignée? Vous voyez ici la convergence est très nette, l'architecture est parfaite du point de vue de la structure de l'espace. Encore une fois, l'infini lui permet d'organiser l'infini avec un point de vue formidable. Oui, point de vue, puisqu'il y a en ce moment un débat sur le nom à donner à cette technique. Et le débat faut-il l'appeler perspectiva, comme en français, ou prospettiva? Et en italien, on dit prospettiva, qui veut dire point de vue. Perspective, l'idée, c'était de ce qu'on voit à travers. Par exemple, à travers une fenêtre, le panorama qu'on voit au-delà d'une fenêtre. Mais non, en italien, on dit prospettiva, et ils accentuent explicitement, Alberti l'a dit dans son traité, le fait qu'il s'agit de choisir un point de vue. Vous comprenez que si on bouge le point de fuite, on change le point de vue. Aujourd'hui, vous pouvez le faire avec beaucoup de videogames. Hein. Mais aussi dans un tableau, c'est le choix du point de fuite qui donne le point de vue sur le tableau. Et dans ce cas-là, il y a la possibilité de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, ayant très bien construit la prospettiva, et ça, c'est une remarque de ma fille, le rayon transgresse l'espace. Vous voyez les rayons de l'Esprit-Saint qui viennent de Dieu, qui est là-bas, presque à l'infini, ou en tout cas très éloigné, il passe à travers les nuages. Après avoir passé dans le mur, il fait un tournant qu'on ne voit pas. C'est un parcours impossible pour un rayon lumineux qui va tout droit. Il fait exprès, puisque Dieu invente l'espace et puis il fait ce qu'il veut, quoi. Le Saint-Esprit, il voyage à travers ce parcours. Et ce n'est pas le seul qu'il fait, mais peut-être c'est un des tableaux où c'est le plus évident. On construit une géométrie parfaite, les grands peintres géomètres, pour justement montrer les miracles de Dieu que lui, il s'en fout. Enfin, il fait ce qu'il veut, il passe à travers l'espace par un rayon qui transgresse la règle même de la perspective. Et puis, la perspective sera tout à fait laïque. Et ça, c'est le passage à la finesse extrême de la peinture flamande. En milieu, le débat métaphysique est oublié, mais la technique est restée. J'ai discuté de ça avec mes collègues chinois. J'étais plusieurs fois... puisque c'est évident qu'ils n'ont pas. Il y a un espace, c'est construit comme chez Giotto. Il y a un espace, on voit qu'il y a des choses derrière. Mais vous voyez, il n'y a aucune convergence. Il n'y a aucune convergence. Presque même une légère divergence. En tout cas, le peintre, ce n'est pas ça qu'il utilise. Évidemment, la prospective permet une technique d'une immense finesse, au point de faire le jeu de Crivelli tout à l'heure. Et pourquoi ça? Puisque dans la métaphysique chinoise, il n'y a pas d'infini. Hein. Ils ont plein d'autres choses. La philosophie chinoise est un très grand intérêt. Mais le monde est fini. Et il y a l'unité, la vision synthétique de l'organisme qui est formidable, mais sur un monde fini. L'absence d'infini ne leur permet pas de faire cette invention incroyable, qui est de mettre l'infini dans le tableau. C'est la phrase d'Alberti qui a parfaitement centré le tournant qui se fait. Regardez ici aussi, il y a de l'espace, c'est évident, comme il y en a chez Lorenzetti. Mais encore une fois, il n'y a pas l'infini. Et donc, il n'y a pas une organisation avec un point de vue, le choix d'un point de vue. Bon, alors ça, c'est après. Et c'est pour ça qu'il y a une très belle remarque de Van Frassen qui dit que c'est l'expérience du choix du point de vue donné par la prospective qui va passer en toute Europe qui permettra à Copernic et à ses copains de prendre le point de vue du Soleil. Hein, c'est cet entraînement à dire « je choisis un point de vue ». Et Copernic va choisir le point de vue du Soleil pour décrire la... le système solaire. Et après ce moment, 20 ans après ou 10 ans après, il y aura des Argues, donc ce travail sur la perspective empirique, pratique des peintres, quand même, Piero della Francesca est un vrai théoricien, deviendra avec des Argues la géométrie projective, donc des mathématiques, où on conçoit sans problème les points de convergence des lignes parallèles comme étant les concepts structurant la géométrie projective elle-même. Mais vous savez, comme dans le débat métaphysique, c'est là à continuer avec Giordano Bruno, l'infinité de monde. Mais malheureusement, c'était après la contre-réforme, donc il va finir sur le boucher, justement, puisqu'il dit il y a une infinité de monde, il y a une infinité de soleil. Cette infinité actuelle est l'infinité dans la nature elle-même. Évidemment, des choses inacceptables pour une Église qui a perdu toute tolérance. Mais ces concepts de limites d'infini est porteur aussi de la physique. Pensez par exemple au principe d'inertie de Galilée, le mouvement rectiligne uniforme. Et en plus, il est déjà chez Bruno de façon très informelle, sans la rigueur de la prose formidable de Galilée, sans la rigueur scientifique. Mais le principe d'inertie, c'est un principe limite, c'est un principe à l'infini. Et ça n'existe pas, les mouvements rectilignes uniformes, les mouvements inertiels. Il est à l'horizon infini. Mais justement, puisqu'il est à l'horizon de tous les mouvements, il les rend tous intelligibles d'un seul coup, puisqu'il est un principe limite. Mais c'est ça les mathématiques, surtout à partir de cette époque-là. Et même, disons la vérité, grâce à la Grèce de la ligne sans épaisseur. Mais quand on ajoute cette forme d'infini qui est allée à la limite, même dans une description physique, on s'éloigne du réel. Aristote a raison, si on arrête de pousser un objet, il s'arrête, il n'y a rien à faire. Mais non, mais pour donner le principe général, il faut passer à la limite infinie. Ce qui sera encore plus fort chez Newton et Leibniz. Pour décrire la vitesse et l'accélération d'un objet ici au fini, ben on fait une limite, le calcul infinitésimal, la notion de dérivée, d'intégrale. Donc encore une fois, l'infini devient un outil essentiel pour la description du fini, à part un passage à la limite. Et ça, c'est une façon de voir qui, évidemment, est pour moi une analyse fondationnelle. Hein, c'est-à-dire que je suis en train de faire une épistémologie, dans le sens d'une analyse historique qui est une reconstruction rationnelle d'un parcours constitutif d'un concept, jusqu'à son arrivée dans la pratique mathématique d'une façon essentielle, en particulier grâce au calcul infinitésimal. Et cette organisation du fini qui est donnée par l'infini est très originale, comme la perspective. C'est un tournant dans la représentation humaine et ça donne une façon possible, hein, puisqu'il y avait eu, à la même époque que Piero della Francesca, quelques tentatives de mettre plusieurs points de vue, par exemple en avoir deux, comme si le spectateur était au centre et envoyé dans les deux directions. Malheureusement, il n'y a que des traces racontées de ces tentatives, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Le peintre n'était pas satisfait puisqu'il n'imposait pas un point de vue au spectateur. Et donc, il y a une conscience pleine que ces techniques deviennent une façon de donner de l'humanité, puisqu'en même temps, en construisant bien l'espace fini, il y a tout l'humanisme qui trouve cet espace fini dans la pièce réelle. Hein. On oublie le fond en or de la tradition précédente, on met l'homme dans un espace humain grâce à l'infini qui vient d'un débat métaphysique sur Dieu. Et ce rôle de l'infini, aujourd'hui, est souligné avec force à l'intérieur des mathématiques elles-mêmes, puisqu'il y a de temps en temps des gens, il y a toute une filière de formalistes, finitistes, qui veulent que les mathématiques collent au monde. Donc, puisque le monde est fini, alors les mathématiques doivent traiter seulement le fini, sans se rendre compte la puissance de cet outil pour comprendre l'infini. En plus, c'est interdit. Il y a un théorème qui s'appelle Overspill Lemma, une théorie des ensembles, qui dit qu'il n'y a pas de prédicat formel qui permet d'isoler la partie standard, donc le vrai fini, dans un modèle de l'arithmétique. C'est-à-dire, pour isoler et dire « ça, c'est fini », il faut le dire en théorie des ensembles, où il y a un axiome de l'infini. C'est un théorème pas très difficile, mais d'une très grande finesse. Encore une fois, on démontre que pour avoir un prédicat qui isole la partie finie d'un modèle de l'arithmétique, donc le proprement fini, la partie standard, on l'appelle, il faut un axiome de l'infini. Donc, il faut l'infini pour saisir de façon rigoureuse, formelle, le fini. Dans ce théorème qui est des années 30, des années 20 plutôt, le théorème de compacité, des années 20, 1920, récent, vraiment couronne, hein, tout ce parcours où le rôle de l'infini se montre tout d'abord comme outil pour mieux comprendre le fini. Mais continuons avec l'audace de l'écriture. Revenons un peu à cette audace de la tribu d'Altam qui a osé noter dans le discret linguistique le langage, le contenu du langage. Il ne s'agit pas ici du contenu du langage, mais l'audace de l'écriture de l'infini. Hein. Pour faire ça, en fait, oui, il y a déjà l'espérance du calcul différentiel, mais disons, il y a un passage infinitaire vers l'infiniment petit, et puis on s'arrête là avec Leibniz et Newton. Ce qui va faire Cantor est beaucoup plus. Hein. Cantor va écrire en symbole, ah ça c'est encore... en symbole oméga pour l'infini. Hein. Donc il y a une écriture de l'infini, et puis il dit, maintenant j'ai un signe, j'ai un symbole, j'y travaille, j'ai fait de l'arithmétique, pourquoi pas. J'ai oméga, je fais oméga plus 1, oméga plus 2, oméga plus oméga, ça c'est 2 fois oméga, non? Pourquoi pas. Et puis il continue, 2 fois oméga, 3 fois, 4 fois, oméga fois oméga, et ça c'est oméga au carré, bien évidemment. Et on continue, alors oméga au carré, oméga au cube, oméga puissance oméga. Et puis ça, je peux le noter comme ceci, hein, pour rester sur la même ligne, ça c'est mon problème avec la machine, l'ordinateur, l'écriture. Et bien ça c'est oméga puissance oméga puissance oméga, puis on continue, oméga puissance oméga un nombre fini de fois, on continue. Et bien pourquoi pas, je fais la limite, comme oméga est la limite de 1, 2, 3, 4, 5, etc., oméga c'est la limite. Je fais la limite de cette écriture. Pourquoi pas? C'est une écriture symbolique. Ça s'appelle epsilon 0. C'est cette limite-là. Cantor s'arrête là. Après, on continue avec la hiérarchie de Veblen. D'abord, on démontre qu'epsilon 0, c'est la plus petite solution de cette équation, qui n'est pas une équation banale. On démontre que ça, c'est la solution. Et puis, on continue. Epsilon 1, c'est la limite de cette suite. Pourquoi pas, hein? Cantor est très inquiet, Cantor est très religieux. Il s'est dit, mais bon Dieu, alors j'ai une pluralité d'infini. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a une pluralité de Dieu. Il écrit à son copain, un évêque, qui heureusement est très cultivé en maths, et lui dit, non, ne vous inquiétez pas, le bon Dieu est la limite de tout ça. Donc vous faites une pluralité d'infini, mais il y a Cantor va continuer de travailler, fort heureusement, sur ça c'est la hiérarchie ordinale, il va inventer la hiérarchie cardinale, qui est autre chose, et aussi, vous savez peut-être, la représentation des réels à la Cantor, Cantor d'Aide, qui aussi est une construction infinitaire. Qu'est-ce qu'on fait? On met la limite de toutes les successions convergentes, toutes les successions de Cauchy. On prend la limite, on le met tous là, sur les réels, et on a une reconstruction par point du continu. Hein. Ces continus qui étaient restés mystérieux. Il y a la tentative de Leibniz avec les monades, les faits infinitésimaux, mais avec Cantor, qui prend la limite d'une infinité non dénombrable succession convergente, c'est-à-dire il fait une opération de ce genre encore, mais ici on est sur le dénombrable, mais il le fait sur le non dénombrable, on a une reconstitution du continu. On a une proposition pour reconstruire le continu à partir du dénombrable, des points, en passant à la limite infinie d'une infinité non dénombrable des suites de Cauchy. Donc il y a un jeu entre différentes structures de l'infini, différents niveaux de l'infini, l'infini dénombrable, l'infini non dénombrable. On prend toutes les limites, on les met sur la ligne totalement ordonnée, et on a les continus à la Cantor de la ligne réelle, qui est familier à n'importe qui et fait des mathématiques depuis 150 ans. C'est tellement fort que quand on vous dit le continu, vous pensez, tous ceux qui sont un peu mathématisés, je pense les lycées devraient souffrir, pensent la ligne à la Cantor, c'est-à-dire une ligne continue faite de points, hein, sans saut ni lacune. Donc construite par cette technique infinitaire, doublement infinitaire, c'est-à-dire c'est une infinité non dénombrable des limites de suite infinie convergente. Donc, quand on arrive là, c'est vraiment l'apothéose de la construction infinitaire qui nous redonne une façon possible, qui nous donne une façon possible pour avoir les continus d'Euclide, que Euclide traitait déjà très bien, mais sans une analyse fine qui sera possible à faire seulement après Cantor. Mais évidemment, ce n'est pas la seule. Il ne faut pas croire que cette construction soit unique, pas du tout. On sait le faire de façon non standard, mais ça, ce n'est pas très différent. Il y a des topos, des structures catégoriques sur lesquelles j'ai pas mal travaillé, des structures où on peut traiter les continus qui n'est pas fait de points. Donc, il y a des halos qui remplace la vision ponctuelle du continu Lakatos. Mais ça n'a pas beaucoup de succès. Il y a des applications, il y a certains qui font des choses assez intéressantes, même en mécanique quantique. Mais pourquoi ça n'a pas beaucoup de succès? C'est que les constructions Cantor, la construction de la droite réelle, est d'une telle force, d'une telle originalité, qui nous sont vraiment imprégnés. Et il y a tellement de théorèmes basés sur cette structure, c'est très difficile de s'en sortir, hein, continue, qui dérive de cette pratique de la limite qui Cantor commence à faire par l'analyse ordinale, donc par ses constructions de l'infini des ordinaux. Entre autres, à part la corrélation avec la construction infinitaire de la droite réelle, et il y a pas mal d'applications. Il y en a en analyse ordinale, c'est-à-dire analyse de la preuve, où l'induction peut être faite sur des différents ordinaux en changeant la force expressive des théories. Vous voyez, les mathématiques ne sont pas dans le monde, elles sont à les limites du monde. On y arrive quand on sait faire ces transitions conceptuelles. On passe à la limite, hein. Ils sont toujours à la limite, les mathématiques. Mais, en se posant à la limite, donne un regard en arrière, comme le point de fuite à l'infini. Permet de regarder en arrière, de choisir une perspective et de réorganiser ce qui est au fini, ce qui est avant la limite. Les mathématiques sont toujours une science à la limite. Toutefois, le problème se pose, comment gérer du point de vue logique cet infini? Il n'y avait pas de problème tant que la géométrie euclidienne était la seule voie au fondement d'Euclide jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Par exemple, Galilée n'a pas de problème. Pour lui, la connaissance est fondée sur la géométrie. Il ne dit pas les mathématiques, comme certains disent. Non, il dit la géométrie, les figures d'Euclide. Il fait référence explicitement à Euclide. Puisque, je vous disais tout à l'heure, grâce à la fermeture par homothétie, elle donne un rapport inébranlable entre espace de la pratique humaine, du dessin vu de façon abstraite, et l'espace de la physique. Les atomes de Démocrite, on a les mêmes théorèmes sur les triangles, évidemment. Les étoiles, on a les mêmes théorèmes qu'Euclide. Eh bien, le choix qui est fait à la moitié du XIXe siècle, c'est de casser tout cela. Riemann comprend que les variétés spatiales intéressantes sont celles où le cinquième axiome ne vaut pas, qui est exactement équivalent à dire l'espace n'est pas fermé par homothétie. Et donc, si j'ai sur une figure à dimension humaine que la somme des angles internes d'un triangle est 180 degrés, ceci est faux sur les étoiles quand la courbure n'est pas zéro. Hein. Et c'est le tournant de la géométrie non euclidienne qui est fait exprès pour comprendre l'espace. Hein. Et Riemann ne fait pas un exercice mathématique. Riemann veut comprendre la gravitation newtonienne et pourra les bases de ce qui sera la relativité. Et la référence qu'Einstein fait est explicite et l'usage qu'il fait du théorème fondamental de Riemann sur le théorème du tenseur métrique, la corrélation entre la courbure et la métrique, est au cœur de toute la relativité. Donc, cette géométrie entre en crise. Il y a une nouvelle géométrie qui sera fortement physicalisée. On l'a fait pour la physique, mais qui va géométriser la physique. Hein, la relativité est une physique fortement géométrisée, tout organisée autour de la structure de l'espace, sa courbure, ses dimensions, etc. Et un nouveau mariage du continu avec l'espace-temps. Du continu, à ce moment-là, en plus, raffiné à la Cantor, donc un continu qui est définitivement traité de façon très solide, hein, très solide, par la méthode des Cantor. Mais cela, en cassant ces fondements des mathématiques sur le rapport à l'espace proposé par Euclide, Descartes, Galilée, jusqu'à Riemann, tout le monde, on casse cela tout en coup avec la géométrie non euclidienne. Il y a aussi Bolaï et Lobachevsky, mais Riemann est le plus philosophe, le théoricien le plus complet dans la description de l'engagement philosophique qu'il fait et du rapport à la physique. Mais on casse les fondements des mathématiques toutefois, hein, dans ces rapports si certains et si solides à l'espace physique. C'est pour ça qu'il y a la réponse qui est donnée par Frege, tout d'abord. OK, il y a une situation de délire, il dit, pour ce qui est les rapports entre les mathématiques et l'espace, donc oublions le fondement géométrique des mathématiques ou le fondement spatial des mathématiques et regardons le fondement des mathématiques comme quelque chose qui fait référence au concept de nombre entier, qui est un concept absolu. Et l'induction sur les nombres entiers, l'induction qui était formalisée à l'époque par Frege et par Dedekind et Peano, on est dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, le fondement arithmétique des mathématiques. Hilbert, qui est un grand matheux, il ne veut pas perdre la géométrie, est d'accord toutefois à donner un rôle central à l'arithmétique, puisqu'il est, il est capable, dans son livre « Les fondements de la géométrie » de 1899, d'encoder par voie analytique toutes les axiomatiques de la géométrie qu'il avait lui-même proposées dans l'arithmétique elle-même. Donc, il y a d'abord une axiomatisation de toutes les géométries de l'époque, les différentes géométries riemanniennes, des arghésiennes, etc., qu'il fait dans son bouquin. Puis, il encode par voie analytique ces axiomatiques en arithmétique et il s'est dit, ben alors, si nous démontrons la cohérence formelle de l'arithmétique, on aura fondé toutes les maths. Et c'est les grands problèmes, un des grands problèmes qu'il pose, les grands problèmes qu'il pose en 900, en 1900, comme au cœur de mathématiques et des fondements de mathématiques, démontrons la cohérence de l'arithmétique, et quelques temps après, il ajoutera, démontrons la complétude de l'arithmétique, c'est-à-dire que tout énoncé bien formé de l'arithmétique est ou démontrable, ou on démontre sa négation. Donc, l'arithmétique vient au cœur des fondements comme réponse à la crise de la géométrie. Souvenez-vous, il y avait eu la crise inverse. Pythagore, tout est nombre, nombre et rapport entre nombres, pas tout à coup, il y a une longueur qui n'est pas mesurable avec un rapport entre nombres, tournant géométrique, Euclide. Mais non, on fait l'inverse. La géométrie se casse la gueule dans un rapport à l'espace qui devient un délire. C'est quoi ces espaces courbes? C'est vraiment contre toute intuition. C'est l'intuition qui était le rapport entre géométrie et espace. Eh bien, alors, la réponse, revenant à l'arithmétique comme fondement des mathématiques. Et Hilbert théorise que la certitude est donnée dans le discret de l'arithmétique. On revient au discret comme fondement, les discrets de l'arithmétique, et les traitements des suites discrètes des signes de façon potentiellement mécanisable. L'axiomatique est une écriture formelle, une écriture alphabétique formelle, des suites de signes finis maniées par des règles d'inférence qui sont des suites de signes finis de façon potentiellement mécanisable. Il n'y a pas de machine, on est en 1900, entre 1900 et 1922. Les points de complétude du programme d'Hilbert. Et on pense à la machine abstraite, dans le sens quelque chose qui soit si rigoureux de ne pas avoir besoin de sens. Donc il faut que ces maniements alphabétiques reviennent à la pureté du traitement des signes sans référence à la signification. C'est ça l'objectif d'une nouvelle certitude. Non plus sur le contenu de l'espace, la géométrie qui fonctionne, etc., etc., mais la certitude est donnée par l'émaniement fini des suites des signes alphabétiques qui composent les axiomes, sans référence à la signification. C'est là qu'on est certain. Puisque la signification, en particulier des axiomatiques géométriques, doit faire référence à ces contenus et à ces structures de l'espace où l'intuition, l'espace à courbure positive, à courbure négative, où l'intuition est perdue. Donc, l'invention de la machine, tout d'abord comme outil purement conceptuel. Il n'y a aucune machine, hein? C'est la pensée. C'est la pensée discrète qui travaille sur des signes de façon mécanique. Et voilà donc qui arrive l'invention de la calculabilité en tant qu'extension de l'arithmétique qui peut permettre de travailler sur des suites de signes. Pourquoi est-elle faite, cette invention? Est faite pour casser le programme d'Hilbert. Gödel, enfin il y a aussi les travaux d'Herbrand qui précèdent un peu, mais c'est Gödel en 1931, qui pour démontrer l'incomplétude et la non-démontrabilité finitaire de la cohérence et de l'arithmétique, invente une notion rigoureuse de calculabilité. Pour trouver le non-calculable, il invente le calculable. Il a besoin de dire exactement ce que veut dire calculable pour démontrer qu'il y a des énoncés non-calculables. C'est ça le théorème d'incomplétude de Gödel, qui est un monument. C'est-à-dire, en faisant le jeu formel à l'intérieur de ces écritures alphabétiques des signes, il invente une notion de calcul sur ce type de signes, grâce en particulier à une idée fondamentale, l'idée de codage, de gödelisation de toute suite de signes d'alphabet, alphabétiques par des nombres. Maintenant, c'est monnaie courante, nous serons tous. Ces lettres-là sont codées par des 0 1 dans la machine. Ça, c'est la Gödelisation. Ça a inventé par Gödel en 1931. Pour faire quoi? Pour donner une notion de calculable. Qu'est-ce qu'il construit? Il construit le codage de tout signe fini par des nombres. Il travaille sur les systèmes axiomatiques de façon formelle et il construit des énoncés indécidables. C'est quelque chose de très complexe, hein, je ne peux pas détailler ici. Et vous trouvez pas mal de textes de ma part sur ma page web, en particulier l'interface de l'incomplétude, qui est un texte récent. Et donc, naît la calculabilité, purement abstraite comme notion mathématique, pour trouver l'incalculable. Et Turing va faire la même chose, dans un cadre plus audacieux, mais ça vient après, il connaît Gödel, en 1936. Il invente la machine. Encore une fois, machine mathématique, mais avec une idée formidable, extrêmement originale. Il départage le logiciel du matériel. Donc, les mathématiques décrivent une partie matérielle, mais c'est matériel dans le sens mathématique, c'est un ruban et une tête qui bouge sur le ruban. Hein. Un ruban infini, hein, puisqu'il fait des maths, quoi. Ruban infini, où on peut écrire 0, 1. Les logiciels, quoi, c'est des instructions qui disent écris 0, écris 1, efface 0, efface 1, bouge à droite, bouge à gauche. Machine abstraite, mathématique. Et il démontre que sa machine minimale, qui, dira Wittgenstein, qui connaissait très bien Turing, ils étaient à Cambridge, ils allaient un au cours de l'autre, il dit Wittgenstein, c'est l'homme dans l'acte minimal du calcul. 0, 1, remplace, bouge, etc. C'est l'homme dans l'acte minimal du calcul, mais il fait ses départages logiciels matériels. Il invente une machine mathématique qui contient cette idée formidable. Après, il sera engagé dans la guerre. Turing, il va faire le décodage avec des machines traditionnelles de code allemand. Mais ça lui donnera l'idée que peut-être sa machine abstraite pourrait devenir concrète. Et à la fin de la guerre, en 1948, avec von Neumann, il fait la machine vraie. Concrète, qui réalise la sienne, c'est-à-dire une machine électronique où le matériel n'a rien à voir avec le logiciel. Le programme n'a rien à voir avec le matériel. Vous savez, c'est très important. Hein. L'idée fondamentale qui est ici, il y a une technique de programmation qui est portable, qu'on peut la transférer n'importe où. Le programmateur s'en fout totalement de comment elle est faite. En plus, elle a beaucoup changé ces dernières cinquantaines d'années. Il y a beaucoup plus de mécanique quantique et tout ça. Ça pourrait être à eau, à bille, n'importe comment, on fait de la programmation in abstracto, et puis on la transfère, il faut évidemment des questions d'interface, des compatibilités, mais l'idée extraordinaire est un tournant, puisque jusqu'à l'époque, il y avait les machines électromécaniques, qui en plus ont duré jusqu'aux années 60, je crois, c'est-à-dire où il y avait des engrenages pour faire la multiplication, et changer des engrenages, on faisait la multiplication, c'était dans le matériel, non, les opérations étaient inscrites dans le matériel, ici, c'est absolument pas ça. Donc, cette idée nous donne cette nouvelle machine, un tournant révolutionnaire, et vous en voyez les conséquences. Et comme conséquence principale, vous en connaissez tous celles qui envahissent et enrichissent notre vie, puisque l'histoire d'être un réseau tout le temps, d'avoir par le web, qui est un réseau de ces machines de Turing, hein, et être... corrélé au monde grâce à ces machines. Le fait qu'on ait inventé un outil qui met la mémoire et la connaissance de l'humanité à disposition de l'humanité, c'est quelque chose d'aussi important que l'invention de l'alphabet. C'est un enrichissement, un tournant de nos formes de vie incroyables. Mais évidemment, il faut faire attention puisqu'il y a aussi d'autres aspects. Mm-hmm. Ce dont je voudrais parler, vous trouvez plus de détails sur ce qu'il disait tout à l'heure Anne Bonnefoy, c'est-à-dire l'émission qu'il y a eu sur France Culture, que vous pouvez télécharger de ma page web, sur le rôle d'Internet dans la monnaie. Très brièvement, puisque là, c'est une heure de discussion, qu'est-ce qui se fait? Dans l'écriture symbolique sur l'écran, on a inventé une nouvelle forme abstraite de monnaie. C'est un tournant radical. Et ceci est très bien raconté du point de vue, disons, philosophique de Clarice Arrowsmith. Je dois beaucoup à ce bouquin, qui est un gros bouquin, qui part de l'alphabet et arrive à l'ordinateur aujourd'hui. Pas suivant mon parcours, mais il y a énormément des richesses. Et Clarice, qui est une chère amie, est archéologue, donc elle a beaucoup travaillé sur la monnaie. En Mésopotamie, l'invention de l'écriture et puis la monnaie chez Crésus. Et puis, s'est occupé récemment de l'histoire du rôle de l'ordinateur dans le bousculement de nos cultures. Dans le cas particulier de la monnaie électronique et réticulaire, nous avons un objet nouveau. Comme quand, avec la monnaie frappée, on change le monde par l'échange qui n'est plus de troc, par cet objet très abstrait qui est la monnaie. Mais il y a eu des passages intermédiaires. De Crésus, il y a évidemment tout un parcours, l'importance de la monnaie dans le monde, tout ça, mais l'autre tournant s'est fait à la même époque de l'invention de la perspective. Encore une fois, c'est une habitude à l'abstraction qui dépasse un champ spécifique. Quel est ce tournant? L'invention de la monnaie papier. À Florence, même endroit, même gens à peu près, inventent la monnaie papier. Et c'est un tournant radical puisque la vitesse change tout. Ce n'est vraiment pas la même chose de transporter des sacs en or ou de faire un petit bout de papier avec lequel on circule. Et il y a cette accélération de la circulation monétaire, cette possibilité d'inflation, par exemple. Avec le troc, vous n'avez pas du tout d'inflation. Avec la monnaie en or ou avec une référence à l'or, il y a très peu d'inflation. C'est difficile d'en faire. Les Romains en faisaient puisqu'ils trichaient, ils mettaient de moins en moins d'or dans la monnaie. Mais avec la monnaie papier, c'est ces nouveaux phénomènes qui se présentent, en plus de la circulation et des arnaques, par exemple, du fait que c'est beaucoup plus facile de faire des arnaques ou de faire comme les rois d'Angleterre qui, en 1350, quand cette monnaie papier venait d'être inventée, au même temps de la peinture de Lorenzetti, n'errant pas ses dettes vers la banque Peruzzi à Florence. Non, il s'endette énormément pour payer la guerre contre la France, puis il dit, moi je m'en fous, je ne paye pas. C'était du papier, après tout. Et donc, l'invention change les rapports entre les hommes, des inventions de ce genre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a cette monnaie électronique. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Cette écriture sur l'écran, c'est déraciné, a perdu le rapport avec la monnaie papier, même comme vague référence bancaire. En particulier, elle permet des formes de circuits qui nous donnent des circularités. Par exemple, une chose typique, c'est l'histoire de prêts entre banques. La banque A1 qui prête à A2, qui prête à A3, qui prête à AN, qui prête à A1. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette série de prêts? Comment l'évaluer? Alors, on comprend qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit qu'en Angleterre et aux États-Unis, on ne dit pas assez, mais en 2007, la dette privée avait atteint 300% du PIB. 300% du PIB. Hein. Nous vivons une crise de la dette privée. Faisons attention, ce n'est pas la dette publique, c'est la dette privée, la folie monétaire de ces dettes qui sont devenues l'outil pas seulement d'achat des maisons, mais d'achat des titres en bourse, en s'endettant auprès d'une banque qui va s'endetter près de qui, à travers une circularité, va revenir au même titre que vous êtes en train d'acheter par une dette. En plus, aux États-Unis, il y a des gens qui s'endettent pour acheter la nourriture. Mais ça, c'est la limite de la misère. Mais donc, et ceci est possible, justement, puisqu'on a perdu toute référence au papier. Et on arrive à voir les CDS, les Credit Default Swaps, qui atteignent les 60 000 milliards de dollars, qui est les PIB du monde, les PIB du monde. Quel sens a-t-il cette écriture électronique? Ce qui se passe, que suite à ces phénomènes de circularité, suite au fait qu'il y a des effets de résonance aussi, c'est-à-dire quand Goldman Sachs prête à Merrill Lynch, qui prête à Standard & Poor's, qui prête à Goldman Sachs, dans ces interactions, il y a des effets de non-linéarité mathématique qui donnent des divergences des sommes. Hein, des phénomènes très bien étudiés depuis Poincaré, il y a des divergences de sommes des séries. Et alors, les gens qui voient sur l'écran la somme qui diverge, qui augmente, qui diverge en fait vers l'infini, disent « Ah, c'est formidable, il faut l'acheter puisque ça augmente. » Et alors, ça augmente, pourquoi? Puisque ça augmente. C'est ça qui va totalement contre les théories libérales, puisqu'on nous dit normalement, si les poires augmentent, on achète des pommes, et alors les poires vont baisser puisque personne n'achète. Non, dans ces marchés, c'est le contraire. On achète puisque ça augmente, et alors ça augmente encore plus. Et ça donne des phénomènes de divergence. Et ce sont des divergences, c'est-à-dire ce sont des montants symboliques qui sont en train d'aller à l'infini. Puis à un certain moment, quelqu'un commence à vendre et alors on n'arrive pas à l'infini, évidemment. On s'arrête avant avec une crise catastrophique. Et maintenant, l'idée formidable, c'était quoi? C'est de dire, on va transférer ça sur la dette publique. Non, c'était parfait. On dit c'est trop grand pour faire faillite, donc il faut intervenir. Et effectivement, il n'y avait pas de choix, hein, il fallait intervenir. Il fallait acheter les membranes, ce qu'on n'a pas acheté, c'était encore pire. Donc c'était un enseignement formidable. Il faut absolument acheter ces titres qui ne veulent rien dire, hein, qui sont simplement des représentations formelles des suites divergentes. Les États sont intervenus. On a la dette publique, et maintenant, on nous parle seulement de la dette publique, pour laquelle il faut casser, a fortiori, les services publics, évidemment, en encourageant les gens à acheter des titres en bourse où seront cotées les structures publiques de plus en plus. Je crois qu'il faut que je m'arrête. Ça, c'était un peu rapide, mais si vous voulez, on peut y revenir. Mais je veux surtout que... à cette perspective un peu épistémologique, un peu historique, sur les rôles de ces notations mathématiques derrière lesquelles il y a des concepts très importants, comme celui des discrets et des continus.
D'Euclide à la crise, qui va poser la première question? Est-ce que ce sera un mathématicien ou un philosophe
ou un informaticien? Voilà. Quelle est la place que vous donnez dans cette histoire du discret du continu aux gens qui ont essayé de formaliser un peu ces choses-là sous la forme de l'analyse non standard?
J'ai à peine mentionné, dans les années 20, il y a ce théorème de compacité qui oblige à voir l'infini pour traiter le fini, je disais tout à l'heure, et qui peut être aussi utilisé pour donner une extension de l'analyse d'une façon qui formalise les idées de Leibniz sur les infinitésimaux. C'est une autre façon de voir l'infini et les continus à la Cantor, pas très éloignée, elle est très proche. Pour ça, je disais, il y a les topos sans points, ce sont des choses qui ont suivi Grothendieck très récentes, après les années 60, que je trouve sont une alternative plus nette. Certainement, l'analyse non standard est une variante intéressante de la construction de Cantor, mais on n'a pas pu beaucoup l'appliquer. Il n'y a pas vraiment des applis. Je crois, il y a parfois un langage plus synthétique, on décrit plus rapidement certaines choses, mais il n'y a pas des théorèmes vraiment différents qu'on démontre là-dedans plutôt que dans un traitement standard de l'analyse. Tandis que dans ces continuels à topos sans point, il y a des nouveautés. Et en fait, il y a des tentatives de l'utiliser dans cette situation très difficile qui est celle de la physique quantique, où ni continu ni discret. Et on a des situations où il y a le spectre continu de l'électron libre, mais sinon il est discret. Mais l'espace-temps de la physique quantique n'est ni continu ni discret. Et effectivement, on n'a pas les bons outils mathématiques. Peut-être là-dedans, il peut y avoir des applications possibles. Mais c'est des choses récentes, difficiles. Je vous mets un beau tableau, peut-être c'est mieux.
Monsieur, s'il est vrai que les États-Unis impriment des billets, des dollars, sans référence à leur réserve d'or, je l'ai lu et je l'ai entendu, peut-on concevoir dans cette idée-là une idée d'infini dans la matière et dans l'espace?
Clarisse Ehrenschmidt, dans son livre, dit que Bush est le plus grand sémoticien des derniers 2000 ans, puisque après Crésus, c'est le premier qui casse ce rapport fondamental en 1971 entre les dollars et entre la monnaie et l'or. Avec Bretton Woods, on avait accroché seulement le dollar à l'or et toutes les monnaies étaient en change fixe avec... avec le dollar. Donc, on restait dans le cadre de Crésus. Il y avait en référence un or de la monnaie. C'est vrai que les Romains avaient déjà triché pas mal sur ça. Mais c'est Bush qui dit non, il n'y a plus aucune corrélation. Ah, pardon, excusez-moi, oui, c'était Nixon, 1971. J'avais dit 1971, ce n'était pas possible. Et je superpose les deux personnages. Mais Nixon, 1971, fait ce choix sémantiquement incroyable de casser l'histoire des créances. Évidemment, à partir de ce moment-là, il y a ce que vous dites, l'impression de la monnaie. Le problème, c'est que puisque reste une réserve, la monnaie des réserves principales, hier, Sarkozy a garanti à Obama que ça va rester, donc il n'y a pas une concurrence de la part de l'euro associée à d'autres monnaies. Et tant que ça reste la monnaie fondamentale, on n'y peut rien faire. Donc ils peuvent imprimer autant de monnaie qu'ils veulent, les pays les achèteront, puisque ça reste la monnaie de dernier recours, hein, inévitable, puisqu'il n'y a plus de référence à l'or, il n'y a pas d'autres paniers qui se présentent. Et, oui. Ben oui, avec... Ben, quand on a 25% du PIB du monde, on peut faire ça, évidemment. Mais c'est... Et quand on a des porte-avions un peu partout aussi, c'est important. Ouais.
Oui, je voulais savoir, vous avez donc montré qu'il y avait des découvertes au fur et à mesure, une histoire finalement continue dans les découvertes mathématiques. Est-ce qu'il y a des choses extérieures à l'histoire mathématique qui influent sur des moments où on a plus de découvertes, ou est-ce qu'on répond à des attentes sociales? Comment, bon, c'est peut-être plus perceptible dans les derniers siècles, comment vous voyez les choses?
Ben, justement, l'histoire de l'infini que j'ai esquissé est une histoire où la métaphysique tombe sur les mathématiques. Et ce qui est intéressant, que j'ai appris ces dernières années en discutant avec ma fille qui faisait Tesla, et c'est Daniel Arras qui l'observe, mais il n'arrive pas à mathématiques, c'est-à-dire il passe par la peinture. Il passe par la peinture, il passe par les annonciations. C'est-à-dire il y a un débat entièrement métaphysique, Dieu, la grâce pleine, surtout cette histoire de la grâce pleine apparemment dérangeait beaucoup. Est-elle infinie? Comment dans une femme est-ce possible? Et autour de ça, il y a tout un débat purement métaphysique. Ça tombe sur les peintres qui sont des métaphysiciens. Lorenzetti, je vous ai dit, Alberti dit, il est un grand théologien. Il y pense. Lui, il est en train de faire de la métaphysique, pas seulement de la peinture. Et ça, on l'oublie souvent. Puisqu'il y a cette grande humanité des figures dans la peinture de la Renaissance italienne, mais qui, en même temps, arrive au même temps qu'une continuation très originale du débat métaphysique. Ces gens font de la métaphysique et la conséquence sera avec des argues. Pour arriver à vraiment des maths, il faut arriver à des argues. Donc, on est au début du XVIIe siècle. On arrive à la géométrie projective. Mais les parcours est celui-là. Débat métaphysique, ça tombe dans la peinture. De la peinture, Piero della Francesca fait déjà des considérations de type géométrique, de géométrie projective très organisée. Et puis, des argues. Donc certainement, c'est ce débat global. Et cela aussi confirme comme il n'y a que cette objectivité dans le concept d'infini. C'est-à-dire, c'est vraiment historique. C'est pour ça que je dis, les Chinois ne l'ont pas. Ce n'était pas facile de faire reconnaître à mes collègues chinois qui n'ont pas quelque chose. Hein. Mais enfin, ils ont reconnu, c'est vrai. Il n'y a pas de métaphysique de l'infini dans la tradition chinoise. Il y a énormément de choses que nous n'avons pas. C'est très riche, mais pas l'infini. La conséquence, ils n'ont pas la géométrie projective, ils n'ont pas la perspective en peinture. Ça va arriver au XVIIIe siècle avec Padre Ricci qui va importer les techniques de la... Donc, c'est une constitution historique, ce qui n'empêche que ce soit un concept mathématique très solide et très important. Hein.
Plus de questions?
J'ai raconté trop de choses.
Non, une petite considération rassurante. Paolo Uccelli n'y comprenait rien à la prospective, à la perspective. Paolo Uccello. Mm-hmm. Il mettait plusieurs points de vue dans ses batailles. Ouais. Bon, donc même, il a quand même fait des chefs-d'œuvre. Donc on peut être un peu ignorant et puis trouver sa place quand même.
Non, oui, comme je disais, il y a eu des explorations, c'est-à-dire avant que le débat métaphysique impose cet infini de façon si claire, Tout d'abord, il y a déjà de l'espace chez Giotto. Et puis, il y a des tentatives d'avoir plusieurs points de vue. Et Parrucello, qui est après, il fait des tableaux, des batailles, par exemple. Donc, c'est déjà passé à la laïcité, l'organisation de l'espace par la perspective. C'est après Piero della Francesca, c'est la fin... oui, quelques années, à peu près, oui. Et donc, il fait des choses laïques et il choisit d'avoir plusieurs points de vue, puisqu'ils ont compris que c'est la constitution d'un point de vue, ça, c'est la perspective. Vraiment les mêmes années, peut-être.
C'est pas pendant l'effervescence de la découverte.
Oui, oui. Mais à cette époque-là, là, c'est déjà assez mûr, puisque. En 435, il y a déjà plusieurs peintures de Masaccio, mais c'est toutes des annonciations avec perspective dont parle Alberti, qui malheureusement sont perdues. Il n'y en a plus. Et Alberti souligne ce rôle chez Masaccio. Et donc, 435, et ça, c'est tardif. À cette époque-là, Piero della Francesca lui-même avait déjà fait beaucoup de peintures sans, avec la perspective qui n'était pas des annonciations.
Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.